Vous écoutez On lit pour vous.
Charity Ekédier, les médias doivent trouver des moyens plus créatifs de s'adresser aux jeunes. Des propos recueillis par Katerina Markelova, paru le 2 juillet 2026 dans Le Courrier de l'UNESCO. Journaliste de formation, la Nigériane Charity Ekédier a délaissé les médias traditionnels pour se consacrer à la création de contenu. Dans des vidéos virales postées sur les réseaux sociaux, la TikTokeuse aux 3,7 millions d'abonnés dénonce sur le ton de l'humour les représentations stéréotypées de l'Afrique. Vous envisagiez au départ de faire carrière dans l'audiovisuel. Pourquoi avoir finalement choisi les réseaux sociaux? J'ai toujours voulu travailler dans le divertissement tout en étant tentée dès l'enfance par le journalisme. En me lançant dans la création de contenu, je n'ai pas eu l'impression d'abandonner le journalisme, mais plutôt d'explorer une autre facette de ma personnalité. Après mes études, en 2012, j'ai travaillé pendant 5 ans comme animatrice bénévole sur une radio universitaire. Suite à cette expérience, j'ai passé du temps à chercher un poste dans le journalisme et j'ai fini par en trouver un. Mais le salaire était tellement bas que j'ai refusé. J'ai finalement renoncé à chercher un emploi dans le secteur des médias. En parallèle, je publiais des sketchs et des vidéos en direct sur Instagram, Facebook et YouTube. Mais le contenu, fait de danse, de mime et d'humour, était trop hétéroclite pour attirer une large audience. Tout a changé en 2020, pendant le confinement, quand TikTok a littéralement explosé. Ce qui m'a frappé, c'est que sur cette plateforme, les gens ne cherchaient pas à être parfaits, ils étaient eux-mêmes. J'y ai publié à mon tour des posts et ça a marché. Cette authenticité a payé. Le problème, c'est qu'en Afrique, les possibilités de monétiser des contenus sur des réseaux sociaux sont limitées. Il a fallu du temps pour que ça devienne une activité lucrative. Mais petit à petit, j'ai commencé à recevoir des propositions de collaboration de la part de marques, d'ONG et d'artistes musicaux. Vos vidéos recourent à l'humour et à la contradiction visuelle en disant une chose tout en montrant le contraire, pour remettre en question les stéréotypes sur l'Afrique. Pourquoi avoir choisi ce format? En 2021, quelqu'un m'a posé une question très orientée sur l'Afrique qui m'a profondément agacée. J'y ai répondu par une vidéo au ton sarcastique qui dénonçait cette vision pleine de préjugés. C'est devenu ma marque de fabrique. Mais comme au départ de nombreuses personnes prenaient mes blagues au pied de la lettre, j'ai ajouté des indices visuels à l'arrière-plan pour souligner l'ironie de mes propos. Par exemple, si quelqu'un me demande s'il y a des téléphones en Afrique, je réponds qu'on n'en trouve aucun, alors qu'un téléphone est clairement visible à l'écran. L'humour est un outil très efficace pour remettre en question les idées reçues. Une bonne partie de mon public se trouve au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Dès le début, j'ai principalement ciblé un public non-africain, car les Africains n'ont pas besoin qu'on leur explique une réalité qu'ils connaissent. Avez-vous été choqué par certains commentaires? En 2022, quelqu'un m'a demandé si on mangeait encore des êtres humains. Cela allait bien au-delà du stéréotype ou d'une remarque à caractère raciste. C'était profondément perturbant. Je ne l'oublierai jamais. À ce jour, je n'y ai toujours pas vraiment répondu. Je me suis contenté de fixer la caméra en silence pendant quelques minutes. Comment parvenez-vous à trouver un équilibre entre divertissement et rigueur factuelle? Ma formation de journaliste m'aide beaucoup. Je veille toujours à vérifier les informations que je partage sur les réseaux. Avant d'évoquer un pays africain que je connais peu, je consulte des sources en ligne, je demande conseil à mes abonnés et j'échange avec des amis originaires de ces pays. Pour préparer une vidéo sur la diversité des langues africaines, j'ai contacté des personnes vivant dans certains pays pour m'assurer que ma prononciation des expressions était la bonne. Chaque fois que je crée du contenu sur des pays et des cultures spécifiques, par exemple le Soudan ou l'Éthiopie, je mène des recherches approfondies et j'intègre souvent des informations factuelles à l'écran afin que les spectateurs puissent s'instruire tout en se distrayant. Les créateurs de contenu comme vous peuvent-ils influencer l'approche des médias traditionnels? Je le pense. Les médias traditionnels présentent souvent l'information de manière pesante et formelle. Or, les gens aujourd'hui, en particulier les jeunes, sont à la recherche de contenus plus légers et plus accessibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une telle place dans la consommation de l'information. Le défi pour les médias traditionnels consiste à trouver un moyen d'atteindre un public plus jeune sans pour autant renoncer à leur éthique journalistique. Ils doivent assurer une présence forte sur les réseaux sociaux pour créer un lien avec leur public, mais à condition de changer leur manière de s'adresser à ce public. À l'image de ce que font les influenceurs, les médias doivent trouver des moyens plus créatifs et plus attrayants pour présenter les informations en ligne aux jeunes générations. N'est-ce pas déstabilisant d'être en prise directe avec son public? Au contraire, c'est vraiment fascinant de pouvoir toucher autant de personnes grâce à mes propres réseaux sociaux. Il me suffit de prendre mon téléphone, de créer du contenu, et des gens du monde entier peuvent le voir instantanément. À bien des égards, les réseaux sociaux donnent l'impression que le monde est vraiment devenu un village planétaire. Je peux publier une vidéo ici, au Nigeria, et recevoir des commentaires de personnes vivant au Canada ou aux Philippines. C'est une grande différence avec les médias traditionnels, qui diffuse généralement l'information de manière unidirectionnelle, alors que les réseaux sociaux créent des communautés au sein desquelles les gens peuvent interagir. Cherchez-vous à lutter contre l'ignorance ou à contribuer à changer la représentation de l'Afrique? Je veux faire les deux. Il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui encore, les pays africains ne sont souvent pas considérés comme des acteurs à part entière sur la scène internationale, alors que le continent recèle une grande partie des ressources naturelles de la planète. L'Afrique n'a pas seulement besoin de dons, mais aussi d'investissements et de véritables partenariats. Je veux contribuer à faire reculer les stéréotypes et les discours axés sur la charité et les encourager à considérer l'Afrique comme un continent plein d'opportunités. Les réseaux sociaux m'ont permis d'entrer en contact direct avec le grand public, mais ils m'ont aussi ouvert les portes de plateformes telles que la COP30 au Brésil en 2025, où j'ai eu l'occasion de prendre la parole. Je suis convaincue que ces échanges contribuent également à faire évoluer les choses de manière significative. C'était Charity Ekezier. Les médias doivent trouver des moyens plus créatifs de s'adresser aux jeunes. Des propos recueillis par Katerina Markelova paru le 2 juillet 2026 dans Le Courrier de l'UNESCO.
Une fête nationale américaine devenue théâtre de l'absurde. Un texte de Fabien Deglise, paru le 4 juillet 2026 dans Le Devoir. En juin 2026, la présentation de combats de lutte extrême sur la pelouse sud de la Maison-Blanche pour célébrer le 80e anniversaire de Donald Trump et le 250e anniversaire de naissance des États-Unis a engendré beaucoup de cynisme sur les réseaux sociaux. Idiocracy a parfaitement prédit à quoi ressemblerait la Maison-Blanche dans le futur, a écrit un internaute sur X avec un montage rassemblant une capture d'écran du film de Mike Judge et une photo du bâtiment aujourd'hui. L'une montrait la piscine hors terre plantée sur la pelouse d'une Maison-Blanche projetée 500 ans dans le futur, l'autre, le terrain actuel du siège du pouvoir exécutif américain prêt à accueillir l'arène des combats de la MMA. En 2006, la satire politique de Mike Judge s'amusait de l'abrutissement des masses et de l'affaissement intellectuel des Américains en imaginant leurs conséquences à venir sur la politique du pays. Dans son monde, la présidence du pays se retrouve entre les mains du citoyen le moins demeuré. Ex-lutteur et ex-acteur de films porno, Dwayne Camacho, qui va mettre alors le fonctionnement du pays à son image, au croisement du festif, de l'incompétence et des erreurs de jugement. Une image vulgaire, nourrie par ce théâtre de l'absurde, ces prises de décisions simplistes aux conséquences grotesques et qui, depuis l'entrée de Donald Trump dans la sphère politique, attise souvent les comparaisons dans l'exagération comique, bien sûr. Les festivités du 250e anniversaire de la Fondation des États-Unis, qui culminent samedi avec la célébration du jour de l'indépendance, n'ont pas manqué de relancer cette mécanique du rire. L'organisation des combats de lutte devant la Maison-Blanche a aidé, en donnant un drôle de ton à ce jalon important dans l'histoire du pays, que le populiste a mis à sa main depuis sa reprise brutale du pouvoir. Un détournement de célébration nationale à des fins personnelles et politiques, dénoncent plusieurs, et qui a entraîné une multiplication de scènes et d'anecdotes inspirant bien plus les désillusions, la rancœur, les divisions et les railleries que les sentiments d'unité, de fierté, de communion, au-delà des clivages idéologiques, que la célébration d'un quart de millénaire d'existence pour un pays aurait dû normalement convoquer. Le normal n'a pas été invité à la fête. Le fiasco du miroir d'eau du Lincoln Memorial à Washington en témoigne. En grande pompe, Donald Trump a lancé au printemps un vaste projet de rénovation de l'illustre bassin en vantant les services et les compétences d'un de ses gars de piscine, œuvrant dans son empire immobilier. Le but était de donner du lustre à ce haut lieu de la capitale en prévision des festivités du 250e, et ce, en faisant mieux, plus malin et pour moins cher que n'importe quel président avant lui, comme le veut sa formule consacrée. Double échec. Le budget prévisionnel de 1,8 million présenté par Trump s'est soldé par une facture de 15 millions. Le fonds bleu-drapeau américain de la Reflecting Pool, lui, n'a pas tenu, s'effritant dans les jours qui ont suivi la remise en service du bassin. La rénovation devait redonner sa grandeur au miroir d'eau du Lincoln Memorial. L'apparition d'algues vertes et la fermeture d'urgence du lieu historique en pleine festivité dans la capitale américaine ont plutôt donné une autre illustration des conséquences du populisme, du gros bon sens qu'il promeut et du simplisme qui le nourrit sur un plan d'eau. Foire en carton. Plus loin dans la ville, c'est la grande foire américaine, organisée pour ce 250e anniversaire, sur le National Mall of America, à Washington, par des proches du président, qui qui semble vouloir ajouter à la déception. La semaine dernière, le Washingtonian, mensuel de la capitale, parlait de ce rassemblement censé célébrer et réunir les identités, les diversités, les singularités, les innovations des 56 États et territoires américains comme d'un événement peu fréquenté et ennuyeux. Exercice d'unité manquée, au moins 8 États, le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, la Caroline du Nord, l'Oregon, le Rhode Island, le Vermont et l'État de Washington, ont décidé de ne pas y participer, évoquant des questions budgétaires. Le grand spectacle qui devait précéder l'ouverture de cette foire a été annulé après le désistement de plusieurs artistes qui n'avaient pas pris conscience du caractère hautement partisan de l'événement et du culte sous-jacent de la personnalité du président au moment d'accepter l'invitation. Donald Trump en a fait finalement un rassemblement politique en son honneur et en celui de son mouvement politique MAGA, Make America Great Again. Il y a une grande roue aux illuminations criardes, quelques animaux, et lors de ma visite, il y a eu une démonstration de rodéo d'une heure présentée comme une métaphore du mouvement MAGA et de la ténacité, du courage et de la singularité des Américains, a écrit le chroniqueur Philip Kennicott dans les pages du Washington Post. Mais à part ça, l'endroit ressemble davantage à un salon professionnel pour des groupes chrétiens, des offices de tourisme et le complexe militaro-industriel. Dévastateur, il y souligne le caractère bâclé et improvisé de cette foire où les pavillons représentant chaque État et territoire s'étendent de manière rectiligne et monotone sans tirer parti des magnifiques vues axiales du National Mall ni de l'architecture qui borde ses côtés nord et sud. Tout est entassé dans une fausse agora, avec des colonnes doriques et des niches en arc peintes sur des panneaux de théâtre bon marché qui ressemblent à des agrandissements des fresques murales d'un boui-boui grec miteux servant gyros, moussaka et assiettes de pastitio gargantuesques, poursuit-il. Pour ce 250e, Donald Trump a donc décidé d'inviter l'Amérique à célébrer dans un décor en carton. Un décor aussi qui peine à dissimuler la véritable nature du détournement de ces célébrations, dont l'organisation avait pourtant été confiée il y a 10 ans à America 250, une instance bipartisane, avant qu'un décret présidentiel ne vienne la placer entre les mains du populiste et de son entourage politique. Éloge de la corruption. Un rapport d'une sous-commission démocrate de la Chambre des représentants a dénoncé d'ailleurs cette prise de contrôle hostile des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis par Donald Trump afin de s'enrichir, d'enrichir ses alliés politiques, de collecter des données électorales et de promouvoir une idéologie nationaliste chrétienne, peut-on lire en substance. Le document détaille un réseau de corruption présumée, de fraude électronique et de pots de vin orchestrés par Freedom 250, société écran créée par Trump et intégrée au fonctionnement de la National Park Foundation, NPF, collecteur de dons privés pour la Société des parcs nationaux et pour l'organisation de fêtes historiques, afin d'en détourner les fonds. Freedom 250 a cherché à monétiser l'accès au président en proposant des commandites dont le montant varie de 500 000 $ à 10 millions de $ en échange d'accès privilégié à Donald Trump lors de ses prestations dans le cadre des fêtes du 250e. L'organisation a également servi à canaliser des fonds fédéraux vers les fidèles du président, dont Evan Strategies, l'entreprise qui a organisé le rassemblement du 6 janvier 2021 à Washington, qui a précédé l'attaque du Capitole. Elle s'est vue attribuer 18 contrats dans le cadre des célébrations pour un montant de 40 millions, relate le rapport du Congrès. Des accusations de copinage, de corruption, de manipulation, d'abus ou d'improvisation qui risquent toutefois de disparaître très vite derrière le vaste écran de fumée que se prépare à générer après le coucher du soleil les feux d'artifice du 4 juillet. D'ordinaire composé de 20 000 pièces pyrotechniques, le spectacle de cette année devrait en faire exploser 850 000 depuis 10 sites. Une démesure à la hauteur de l'anniversaire, mais surtout de la personnalité d'un président en quête permanente de reconnaissance, obsédé par la grandeur et la gloire, qui veut ainsi que son feu d'artifice entre dans le livre Guinness des records, supplantant celui établi pour le plus gros feu tiré à ce jour. C'était aux Philippines, lors du Nouvel An de 2016. C'était une fête nationale américaine devenue théâtre de l'absurde. Un texte de Fabien Deglise, paru le 4 juillet 2026 dans Le Devoir.
La permanence de l'idée impériale américaine, un éditorial de Jocelyn Coulon, paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir. On croyait le temps des conquêtes terminé. Erreur. Trump s'y est mis sans perdre de temps. Il y a quelques jours, le président Donald Trump a marqué le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. À cette époque, le document établissant ce qui allait devenir le plus puissant pays de l'histoire était de nature révolutionnaire. Jamais aucun acte constitutionnel n'avait proclamé avec autant de force les droits des citoyens. « Tous les hommes sont créés égaux », peut-on lire dans les premières lignes. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Recherche du bonheur. Ces trois mots ont attiré des dizaines de millions d'Européens et d'autres immigrants et transformé les États-Unis en nouvelle terre promise. À partir de là, le récit historique, la littérature, le cinéma ont érigé l'expérience américaine en véritable mythe, masquant du même coup sa naissance dans l'injustice et le sang. La Déclaration d'indépendance a complètement oublié les esclaves, qui ont créé chaque jour la richesse du nouveau pays. Elle a désigné les Autochtones comme complices de l'occupant britannique. Bientôt, il faudra faire la guerre aux loyalistes qui résistent à l'indépendance. Nous avons longtemps aseptisé la Révolution, de peur que, si nous révélions à quel point elle a été sanglante, cela diminue les grandes idées de 1776, expliquait récemment le documentariste Ken Burns, spécialiste de l'histoire des États-Unis au journal Le Monde. Mais ça a été la première guerre civile. Il y a plus. Les États-Unis sont nés d'une révolte contre le système impérial britannique. Les 13 colonies n'acceptaient plus une série d'injustices et d'usurpations répétées envers leurs droits et leurs libertés. La rhétorique révolutionnaire américaine présentait le mouvement indépendantiste comme une lutte contre l'esclavage et l'impérialisme imposé aux Nord-Américains blancs par les Britanniques. Les révolutionnaires se trouvaient pourtant confrontés à un dilemme idéologique. D'un côté, ils voulaient défendre la liberté et s'opposer à l'impérialisme. De l'autre, la plupart des révolutionnaires ne souhaitaient pas défendre la liberté universelle et s'opposer à tout impérialisme. Avant la proclamation de 1776, certains colons étaient devenus des colonisateurs et convoitaient les terres et les richesses à l'ouest des Appalaches. Pour eux, ce qui se trouvait de l'autre côté de cette frontière naturelle était un territoire vierge, sans gouvernement et peuplé de « sauvages », vivant à l'état de nature, disponible pour accueillir le flot ininterrompu de nouveaux colons arrivant d'Europe et de leurs esclaves. La logique impériale a déboulé. Les guerres contre les Autochtones ont duré plus d'un siècle, fait chez ces derniers des millions de morts et spoliés ce qui restait de leurs terres. Au début du 19e siècle, les Américains ont mis la main sur la Floride espagnole et ont acheté la Louisiane. Ils ont même fait de même avec l'Alaska en 1867. En 1823, le président James Monroe a énoncé une doctrine qui a érigé les États-Unis en gendarmes de toutes les Amériques. 25 ans plus tard, James Polk a provoqué une guerre avec le Mexique lors de laquelle il a triomphé et a annexé la moitié du territoire mexicain. Le royaume d'Hawaï a été annexé en 1898. La même année, la guerre contre l'Espagne a permis à Washington de mettre la main sur Porto Rico, les Philippines et quelques îles du Pacifique. La fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 a vu l'émergence de l'Union soviétique et des États-Unis comme seule superpuissance. Moscou s'est bâti un empire terrestre en Europe. Les États-Unis, plus subtils, ont assemblé un empire informel fait de zones d'influence dans les Amériques, en Europe, en Asie et en Océanie, où ils sont intervenus pour installer ou renverser des gouvernements. L'usage de la force, qu'elle soit sous la forme d'une coercition économique, politique ou militaire, est inscrit dans l'ADN des Américains et reste au fondement de la domination des États-Unis. On croyait le temps des conquêtes terminé. Erreur. Voilà que sont arrivés Donald Trump et sa volonté affichée de rétablir la conquête et l'annexion territoriale comme nouveau paradigme de la puissance d'un État. L'objectif est d'occuper un territoire stratégique ou de s'emparer de richesses naturelles. Trump n'a pas perdu de temps. Il a renversé le président vénézuélien et il déstabilise Cuba. Il a préconisé la transformation du Canada en 51e État américain et l'annexion pure et simple du Groenland. Il a forcé Panama à limiter ses relations avec la Chine afin de s'assurer du contrôle complet du canal. Au Proche-Orient, il a reconnu l'annexion illégale du plateau du Golan syrien par Israël et a déclenché une guerre illégale contre l'Iran. Que va-t-il annoncer le 4 juillet prochain? L'établissement d'une base sur la Lune afin de compléter le dispositif militaire actuel de 700 bases et points d'appui déployés dans 112 pays. En tout cas, il y a 250 ans, le rejet de l'impérialisme britannique a fait place à l'idée impériale américaine. Elle reste aujourd'hui toujours aussi prégnante. C'était La permanence de l'idée impériale américaine, un éditorial de Jocelyn Coulon paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir.